Le pilier développement. Nous aurons avec nous un invité spécial en la personne de Dr. Léo Degal Bazira, représentant spécial de l'OMS, qui va vous parler de la situation de l'épidémie de choléra en Ebola en RDC. J'ai aussi avec moi le commandant Dienne pour la situation sécuritaire. Je suis Madnoch Mounoubaye. Nous commençons tout de suite, comme je l'ai annoncé, par la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix en RDC. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, M. Hervé Latsous, sera en visite en RDC du 9 au 11 septembre 2012. Durant son séjour, il rencontrera les autorités congolaises à Kinshasa et se rendra aussi à Goma. Hervé Latsous prévoit également de se rendre à Kigali et à Kampala. Avant de quitter Kinshasa, il donnera une conférence de presse le lundi 10 septembre à 18h30 à l'hôtel Memling. Je répète encore, ce sera le lundi 10 septembre à 18h30 à l'hôtel Memling. Bien entendu, vous y êtes tous cordialement invités. Nous passons aux composantes de la MONUSCO. Les droits de l'homme. La MONUSCO a appuyé une mission du vice-ministre chargé des droits humains du 29 au 3 septembre 2012 dans la province de l'Équateur. C'est la troisième mission de ce genre qu'elle effectue à l'intérieur du pays pour dresser un état des lieux de la situation des droits de l'homme dans les différentes provinces du pays. Concernant les affaires civiles, la section des affaires civiles de la MONUSCO a organisé un atelier de 5 jours à Lubumbashi pour former 12 experts locaux en médiation, négociation et résolution des conflits. Les participants sont venus de Lubumbashi, Kipushi et Kama. Ils seront ensuite déployés à Kamina où un conflit coutumier a été identifié afin d'accompagner les communautés dans le processus de résolution du dit conflit. Ils auront pour tâche de collaborer étroitement avec les acteurs locaux pour une résolution pacifique de ce conflit. Nous terminerons avec la police. Dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités de la police nationale congolaise, la coordination chargée des forces de police constituées, FPU, de la police MONUSCO, a organisé du 21 au 31 août 2012 un stage de recyclage à l'intention du 14e bataillon de la police d'intervention rapide, KPIR, basé à Maluku. Cette formation de 10 jours en technique de maintien et de rétablissement de l'ordre est conduite par les formateurs de l'unité de police formée sénégalaise. Signalons aussi la remise le 29 août 2012 d'un lot de médicaments par la police de la MONUSCO au centre de santé du 14e bataillon de la police d'intervention rapide de Maluku. Ce don en médicaments est destiné aux soins des policiers, des membres de leur famille ainsi que des populations environnantes. Je passe la parole tout de suite à Florence Marchal.
Merci Mounoubaye. Bonjour à tous. Cette année, la journée internationale de l'alphabétisation, célébrée comme tous les ans le 8 septembre, ce sera donc samedi, met l'accent sur le lien fondamental qui existe entre l'alphabétisation et la paix. Ce lien est d'une importance cruciale dans les temps tumultueux que nous traversons actuellement. Dans les pays en proie à des violences cycliques, les taux d'alphabétisation sont parmi les plus faibles du monde. Les conflits restent l'un des obstacles principaux à la réalisation de l'éducation pour tous et des objectifs du millénaire pour le développement. Dans le monde, 40% des enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire vivent dans des pays touchés par des conflits, notamment en République démocratique du Congo. C'est ainsi que la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, appelle les parties concernées à tous les niveaux à renforcer les partenariats en vue d'accélérer la mise en place d'une alphabétisation de qualité. Il est indispensable que les valeurs de la paix, des droits de l'homme et du civisme soient inscrites dans les programmes d'alphabétisation pour que celles-ci deviennent un véritable instrument d'autonomisation. L'alphabétisation peut être un vecteur de paix et de développement. Œuvrons ensemble plus vite pour que cela arrive. L'intégralité du message de la directrice générale de l'UNESCO vous sera distribuée à la fin de la conférence. Des journées portes ouvertes consacrées au rôle des femmes dans le processus de paix se tiendront la semaine prochaine à Bukavu du 11 au 13 septembre 2012. Au programme, une exposition avec des stands d'information ainsi que des tables rondes auxquelles participeront la ministre du Genre, la représentante d'ONU Femmes en RDC ainsi que des représentants du gouvernement et de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, d'ONG, de la société civile et des agences des Nations Unies. L'objectif principal de ces journées est d'accroître la prise en compte par les autorités de la province du Sud Kivu, la prise en compte donc de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité dans les processus de paix. Il est également prévu de développer un plan d'action pour la mise en œuvre de la campagne Tolérance zéro vis-à-vis des violences sexuelles et basée sur le genre dans la province. Enfin, ces journées seront l'occasion de revenir sur les principes et messages clés de la déclaration de Kampala et de la réunion des ministres du genre de la région des Grands Lacs qui avait suivi à Kinshasa. Une fiche d'information vous sera remise à l'issue de la conférence de presse. Je vous remercie.
Merci Florence. Comme annoncé, nous avons avec nous aujourd'hui un invité spécial en la personne de Dr Léo Degal Bazira, représentant de l'OMS, pour nous faire l'état de la situation de l'épidémie de Ebola en RDC. Mais avant cela, je vais donner la parole d'abord au commandant Diène pour nous parler de la situation sécuritaire.
Merci, monsieur le porte-parole. Pour la situation militaire, des incidents liés au banditisme, pillage, ainsi qu'aux conflits fonciers et ethniques continuent d'être signalés à l'ouest de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire est restée généralement calme la semaine dernière. À Kinshasa, le 31 août 2012, le bataillon ghanéen de la force de la MONUSCO a organisé une campagne médicale au profit des détenus de la prison de Ndolo qui ont bénéficié de traitements à titre gracieux. Les groupes résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA, encore actifs sur l'axe Dungu-Duru et dans la région située à la limite occidentale du parc national de la Garamba en Provence-Orientale, ont de nouveau mené la semaine dernière quelques activités de pillage sporadiques. Les opérations conjointes MONUSCO-FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, Bienvenue à la paix et Chumangumi, point d'acier, se poursuivent normalement dans la région de Dungu. Dans le cadre du renforcement des capacités des unités FARDC, les forces spéciales guatémaltèques de la MONUSCO ont assuré à Dungu la formation de 2 officiers et 28 militaires de l'armée congolaise. Le 29 août 2012, les casques bleus du bataillon marocain, les forces spéciales guatémaltèques et du détachement aérien bengladais ont conduit des patrouilles de reconnaissance aérienne au-dessus des régions de Duru, Bitima et Mogoroko dans le but d'évaluer la situation sécuritaire et de dissuader toute activité des groupes armés. Le 3 septembre 2012, 7 personnes, dont 3 policiers, un soldat FARDC, 2 membres des familles FARDC et un civil ont été tués par 12 hommes armés non identifiés dans la région de Diakato, située à 75 km au sud de Mambasa. Aucun incident majeur n'a été répertorié dans les régions situées au sud du territoire d'Irumu en Ituri, notamment à Geti, Aveba et Kagaba, où la présence des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, continue d'être signalée. La MONUSCO et les FARDC ont poursuivi la semaine dernière dans le territoire précité l'opération conjointe dénommée Eagle Claw, les serres de l'aigle, destinée à dissuader les exactions des miliciens contre les populations civiles et à convaincre ces derniers de ne pas rejoindre les rangs de la milice. Le bataillon bengladais de la MONUSCO a déployé pendant la période sous examen 2 postes opérationnels à Largo et Mungbualu dans le territoire de Djougou, afin d'évaluer la situation sécuritaire et d'interdire toute activité des groupes armés dans ces régions. Les 1er et 2 septembre 2012, le bataillon bengladais de la force de la MONUSCO a organisé 2 campagnes médicales à Bukiringi et dans la région de Roali, située à 5 km au sud du territoire de Bukiringi, au cours desquelles 562 patients souffrant de pathologies diverses ont été soignés à titre gracieux. Aucune activité majeure du M23 n'a été répertoriée dans la province du Nord Kivu, où la situation sécuritaire est demeurée tendue la semaine écoulée. Une recrudescence des combats a été observée dans la province à Ndungu, entre les éléments de la force de défense congolaise FDC et les Mai Mai Nyatura, mais aussi entre la FDC et les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Les troupes onusiennes maintiennent une présence vigoureuse dans les régions affectées par les groupes armés. La MONUSCO maintient également, dans le cadre de l'opération unilatérale Nguvu-Ukuta, Stronghold, murailles renforcées, ses postes opérationnels de Kibati et de Munganga, pour interdire les activités des groupes armés à travers les patrouilles intensives menées régulièrement dans ces régions et assurer la protection maximale des populations civiles. La force de la MONUSCO assure par ailleurs, dans le cadre du renforcement des capacités des troupes FARDC, la formation des unités de l'armée nationale dans ses postes opérationnels de Sake, Ruindi, Kibati et Walikale. Le 29 août 2012, les FARDC ont tué 23 éléments Mai Mai Raya Mutomboki et arrêté 7 autres lors des attaques menées par une coalition Mai Mai Raya Mutomboki et FDC contre l'opposition à Luk. Le 30 août 2012, deux équipes d'intervention rapide du poste opérationnel de la MONUSCO de Kiwanja ont été héliportées dans les régions de Nyamilima et Dishasha dans le but de faire une démonstration de force et de dissuader les activités des groupes armés dans ces zones. Le 1er septembre 2012, les éléments du M23 ont tué une personne, pillé et harcelé les habitants de Bulinda dans la localité de Matala du groupement de Nyamaboko 2. Le même jour, ils ont arrêté des individus au village Roubaré après avoir abattu des arbres dans le parc national des Virunga pour la construction de leur hutte et exiger $5 américains à chacun pour être libéré. Au chapitre des redditions du Nord Kivu, il a été enregistré des redditions des rebelles du M23 et des combattants du Front Populaire Congolais FPC à différents postes opérationnels de la force de la MONUSCO entre les 27 août et 2 septembre 2012. Malgré une résurgence d'activité des groupes armés à travers toute la province du Sud Kivu la semaine dernière, la situation sécuritaire demeure sous le contrôle de la force de la MONUSCO et des FARDC. Les Mai Mai Raya Mutomboki ont distribué des tracts demandant aux populations locales et aux FARDC de se séparer des populations rwandophones dans la province. Les FDLR ont tenté d'étendre leur influence dans les régions de Mwenga, Shabunda et Fizdi. La force de la MONUSCO et les forces de sécurité congolaises continuent de surveiller étroitement la situation à travers la province afin d'éliminer toute menace à la sécurité des populations civiles. Par ailleurs, en dépit de la suspension de l'opération conjointe Amani-Kamilifu, la paix renforcée, la force de la MONUSCO continue de mener des patrouilles intensives à partir des trois postes conjoints de commandement de Bunyakiri, Walungu et Mwenga, ainsi que d'autres postes opérationnels établis à travers la province en vue de sécuriser les populations civiles. Du 22 au 25 août, les Mai Mai Nyatura ont mené des représailles contre la population Tembo et tué 6 personnes dans les villages de Kasuri, Rambouli, Bachaja, Chapike et Katanga de la localité de Bunje. Le 29 août 2012, dans le cadre de l'opération conjointe MONUSCO-FARDC dénommée Safari Majini, CFCL ou Navigation Sûre, le navire UN-12 de l'unité riverine de la force de la MONUSCO a conduit une patrouille de longue portée sur le lac Tanganyika à partir du port de Kalundu jusqu'à Baraka dans le but d'évaluer la situation sécuritaire et d'interdire toute activité des groupes armés sur cette voie d'eau. La même opération a été conduite sur le lac Tanganyika le 3 septembre 2012 à partir de Kalemi jusqu'au port de Kalundu. En outre, dans les opérations de Walungu, Fizi et Kabare, la force de la MONUSCO poursuit ses opérations unilatérales dénommées Kimbilio Salama Refuge Sûr, Mukesha Protecteur, Kuma Macho 1 Vigilance 1, Outreach Présent sur le terrain, Restauration of Roads, Réhabilitation des Axes et Swift Protection, Protection Rapide, en menant des patrouilles intensives à partir de ces postes opérationnels établis dans ces territoires. L'environnement sécuritaire est demeuré relativement calme dans le secteur de Katanga la semaine dernière, mais reste toujours volatile à cause de la recrudescence des activités des FDLR sur les collines de Mutumba ainsi que celles des Mai Mai dans les régions de Manono et de Pueto. L'environnement sécuritaire dans le secteur 2 est demeuré relativement calme. Enfin, concernant les statistiques des patrouilles, la force de la MONUSCO a mené 1614 patrouilles armées, dont 692 nocturnes et fournit 75 escortes, pendant que 297 autres patrouilles ont été menées par les observateurs militaires de la force.
Merci. Comme annoncé, je donne la parole tout de suite à Dr Léodegal Bazira, représentant de l'OMS, qui va nous parler de la situation de l'épidémie de Ebola en RDC. Docteur.
Merci. Le 17 août 2012, le ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo a déclaré l'épidémie de Ebola en République démocratique du Congo. Le virus en cause est le virus de Ebola sous type Bundibugyo. Il s'agit de la 9e épidémie de Ebola qui survient en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une maladie très grave, d'une épidémie grave, du fait de la contagiosité de la maladie, mais également de la mortalité liée à cette épidémie. En effet, environ 25 à 90% des personnes atteintes meurent de cette maladie. C'est pourquoi des mesures rapides doivent être prises, notamment pour empêcher l'épidémie de s'étendre vers les grandes agglomérations, mais également vers les pays voisins. Quelle est la situation actuelle? Au 3 septembre, l'épidémie semble avoir son épicentre dans la ville de Isiro, avec un foyer secondaire dans la ville de Viadana, qui est située à environ 70 km de Isiro. Et au 3 septembre, un total de 28 cas ont été enregistrés, dont 8 cas confirmés au laboratoire, 6 cas probables et 14 cas suspects. Parmi ces cas, 14 sont décédés, soit une mortalité de 50%. Quelles sont les actions qui sont prises sur le terrain pour faire face à cette maladie? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a débloqué immédiatement dans les premiers jours une somme de 150 000 dollars des États-Unis qui ont permis de mettre en place les activités de coordination et de mettre en place un certain nombre de médicaments permettant la lutte contre l'épidémie. MSF est également intervenu très tôt en créant le centre d'isolement dans lequel sont prises en charge les cas suspects, les cas probables et les cas confirmés dans des conditions qui permettent d'assurer à la fois la sécurité des malades mais également la sécurité du personnel soignant. Le CDC d'Atlanta a installé un laboratoire mobile qui permet donc de diagnostiquer la maladie de Ebola dans les heures qui suivent la prise de sang, et ce laboratoire a commencé à fonctionner le 28 août 2012. L'UNICEF participe et appuie les activités de communication, et l'Organisation mondiale de la santé est intervenue dès le début de l'épidémie en fournissant du matériel de protection, notamment au personnel des hôpitaux, au personnel qui doivent prendre en charge les malades, mais également aux personnes qui sont en charge du contrôle de l'entrée aux frontières. L'OMS a également dépêché 4 experts internationaux habitués à la gestion de l'épidémie de Ebola qui sont déjà sur place, ainsi que 8 experts nationaux. Parce que, comme vous le savez, la RDC a déjà eu à faire face à 8 épidémies et donc il y a une expertise nationale qui s'est déjà constituée. L'OMS donc participe, appuie les activités de coordination, les activités d'investigation des cas, mais également les activités de prise en charge, y compris la prise en charge psychosociale des personnes atteintes, mais également des familles. Et également appuie le contrôle de l'infection dans les structures d'accueil des patients, notamment dans les hôpitaux, et également dans les ménages où des personnes malades ont été déclarées. C'est ainsi que l'OMS et l'UNICEF ont lancé un appel conjoint de fonds pour appuyer cette lutte qui s'élève à 2 millions de dollars. Nous lançons également un appel à tous les partenaires pour s'associer à la lutte contre cette épidémie qui, si elle n'est pas contrôlée rapidement, constitue un événement de santé publique pouvant rapidement constituer une urgence de portée mondiale. Je vous remercie.
Merci, docteur. Nous allons tout de suite passer aux questions et réponses. Comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur vibreur. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que votre organe de presse. Nous allons